Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du 18 avril 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, la présidentielle algérienne. Les résultats sont tombés. En principe, Bouteflika est réélu.
Le président Bouteflika a été réélu à 81,53%.
À bord, au Soudan du Sud, le bilan s'alourdit au lendemain de l'attaque d'une base de l'ONU. En RCA, malgré l'annonce de sa libération, l'évêque de Bossangoa n'est toujours pas revenu dans sa ville. Aujourd'hui, c'est Vendredi Saint. Bonne commémoration à tous les chrétiens. Sans oublier les sports et la musique, mais avant, le journal.
Présidentielle algérienne, Abdelaziz Bouteflika s'est fait réélire sans surprise. Le président sortant a obtenu plus de 80% des suffrages exprimés avec un taux de participation historiquement bas de 51,70%. Reste au Conseil constitutionnel à confirmer ses résultats. Le point avec Brahim Taker Ouroupté, rédacteur en chef de l'Expression à Alger.
Le président Bouteflika a été réélu à 81,53%. Ali Benflis a bénéficié de 12,18%. Il a fait un peu mieux qu'il y a 10 ans. Cette fois-ci, il a doublé la mise. Le candidat Benflis a parlé de fraude massive. Il a surtout parlé de bourrage d'urne. Mais je pense que les jeux sont faits, c'est fini pour lui, parce que les suffrages exprimés, c'est 10 millions. C'est 8 323 000 qui ont voté pour Bouteflika. Donc on a beau dire qu'ils ont bourré les urnes, mais les jeux sont pliés. Cela dit, il a insisté hier soir sur la vigilance, même si il aura à manifester, il va le faire dans le calme, parce qu'il y a eu cette crainte, est-ce que ça bascule dans la violence. Mais je ne pense pas, parce que les Algériens s'agrippent à la stabilité. Il incarne en la personne de Bouteflika cette stabilité.
Au Soudan du Sud, au moins 58 personnes ont été tuées, dont 10 assaillants lors de l'attaque d'hier d'une base de l'ONU à bord dans l'est du pays. Des milliers de civils avaient trouvé refuge dans cette base. Vanina Maestrachi, porte-parole onusienne à New York.
Alors les derniers chiffres qu'on a reçus de la mission ce matin, la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, ces derniers chiffres sont de 48 décès confirmés aujourd'hui. Et puis de 98 personnes blessées qui ont été traitées depuis hier, depuis l'attaque sur la base, dans la clinique de la mission à bord. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que donc un groupe assez important d'assaillants, d'armées, s'est rendu à la base de la mission à bord, dans l'état de John Bay, prétextant en fait vouloir présenter une pétition à la mission. Et une fois qu'ils étaient là, en fait, ils ont forcé leur entrée dans la base et ont commencé à tirer sur les déplacés. Les bases de l'ONU servent de site de protection des civils depuis décembre, et que la base de bord avait quelques 5 000 civils à l'intérieur.
Vanina Maestrachi, porte-parole des Nations Unies à New York.
En RCA, l'organe en charge des prochaines élections se met en marche alors que l'insécurité persiste à Bangui et à l'intérieur du pays. Le point avec Idriss Fall.
À Boda, dans le sud du pays, environ 11 000 déplacés musulmans se disent abandonnés à eux-mêmes. Ces derniers affirment être séquestrés par des miliciens anti-Balaka malgré la présence des forces internationales dans la ville. Pour l'abbé Cassien, curé de Boda, les forces internationales assument bien leur rôle en freinant la montée des violences. Pendant que les casques bleus de l'ONU se font toujours attendre, la France pousse pour la préparation des élections. L'autorité nationale des élections a bénéficié aujourd'hui d'un financement de 131 millions de francs CFA. Jean Malinas, ambassadeur de France en Centrafrique, a signé la convention de financement.
La convention concerne l'installation de l'autorité nationale des élections, donc il n'y a pas de date. C'est la convention, elle doit partir d'aujourd'hui et elle permet de couvrir les travaux qui sont en cours de réalisation et l'équipement de l'autorité nationale des élections. Mais en tout cas, la France, pour ce qui la concerne, aidera de toutes ses forces et de tous ses moyens possibles l'autorité nationale des élections et les autorités centrafricaines pour que les élections puissent avoir lieu dans les délais prévus.
Et le président de l'ANE, Dieudonné Kombo Yaya, se réjouit et a réaffirmé l'engagement de cette structure à organiser des élections libres et transparentes à la fin de la transition en 2015.
Bras de fer entre le Burundi et les Nations Unies, Bujumbura a déclaré un diplomate onusien persona non grata, mesure qui intervient en réponse à la note confidentielle divulguée par la presse locale et internationale. Selon cette note, des jeunes Imbonerakure, affiliés au parti présidentiel, le CNDD-FDD, s'entraînent, portent l'uniforme militaire et ont des armes. Le pouvoir en place parle de fausses accusations, estimant qu'elles pourraient replonger le pays dans le chaos. Cependant, la société civile et l'opposition crédibilisent ces informations. Elles demandent une contre-enquête. Explication avec Eric Manirakiza.
Ce jeudi, le gouvernement a passé le cap. Il a décidé l'expulsion d'un diplomate onusien sur place. Il s'agit de l'Australien Paul Dobby, chargé de la sécurité auprès du bureau des Nations Unies au Burundi. Cette déclaration est tombée alors que Paul Dobby se trouvait en mission à Nairobi. Il a rebroussé chemin alors qu'il attendait son vol sur Bujumbura, a dit à la Voix de l'Amérique une source onusienne à Bujumbura. Les Nations Unies, par le biais de son porte-parole à New York, a regretté l'attitude du gouvernement burundais et promet de réciproquer diplomatiquement. Mais tout compte fait, le même gouvernement a débuté une vaste campagne à travers tout le pays pour en appeler la population au calme. Il utilise aussi les médias sous son contrôle pour diffuser des témoignages de la population démentissant la note onusienne. Le Burundi se dirige vers des élections démocratiques l'année prochaine. Le pari est donc risqué pour tous les protagonistes burundais qui voient 2015 comme l'année de tous les dangers. Eric Manirakiza, Bujumbura, la Voix de l'Amérique.
Toujours pas de nouvelles de la centaine de jeunes filles enlevées en début de semaine au Nigeria. L'armée nigériane s'est rétractée après avoir affirmé que la plupart des otages avaient été libérés. Un changement de discours que les militaires tentent de justifier, affirmant que c'était en toute bonne foi qu'ils avaient annoncé la libération des jeunes filles. L'armée soutient qu'elles ne cherchaient pas à tromper le public. Âgées de 12 à 17 ans, elles ont été enlevées lundi dans leur école de Chibok dans le nord du pays. 20 d'entre elles ont réussi à s'échapper. Les assaillants sont des hommes armés non identifiés. Ces enlèvements n'ont pas été revendiqués, mais des attaques similaires ont déjà été menées par Boko Haram.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de l'Ukraine, les militants pro-russes continuent d'occuper des bâtiments gouvernementaux. Kiev et Moscou ont pourtant conclu un accord hier pour réduire les tensions. En présence des États-Unis et de l'Union européenne, ils ont appelé à l'évacuation de tous les édifices publics et au désarmement des militants. Mais les insurgés ne s'estiment pas liés à cet accord et entendent maintenir leur siège tant que le gouvernement ukrainien n'aura pas démissionné. De nombreux dirigeants occidentaux doutent de la volonté de Moscou de respecter ses engagements. Washington va donc continuer à préparer des sanctions contre la Russie au cas où Moscou ne prendrait pas de mesures pour désamorcer la situation, a fait savoir le président américain Barack Obama. A noter que l'accord n'exige pas de Moscou le retrait de 40 000 soldats massés à la frontière ukrainienne.
En Corée du Sud, le capitaine du ferry qui a coulé cette semaine au large des côtes sud du pays fait l'objet d'une enquête criminelle. Il est accusé d'avoir été l'un des premiers à abandonner le bateau. Les précisions de Lionel Gaïman.
Selon les autorités sud-coréennes, le capitaine du ferry Lee Jung-seok n'était pas à la barre, mais l'avait laissé à son troisième officier peu avant le naufrage. Toutes mes excuses, j'ai honte et je ne sais quoi dire. Beaucoup de survivants ont dit qu'ils avaient reçu la consigne de ne pas bouger de leur siège ou de leur cabine. La présidente Park Geun-hye s'est jurée de trouver la cause de l'accident et poursuivre les responsables. Un bilan provisoire fait état de 28 morts, 179 survivants, mais 268 sont toujours portés disparus. Vendredi, les plongeurs ont bravé le mauvais temps pour entrer dans l'épave. Des grues flottantes vont tenter de relever le bateau dans l'espoir d'atteindre ceux qui manquent encore à l'appel. Sur les 475 passagers, il y avait 325 lycéens. Leurs proches commencent à céder au désespoir face à la lenteur des opérations de sauvetage.
Syrie, la télévision nationale fait état d'un attentat à la voiture piégée à Homs. L'explosion se serait produite devant une mosquée dans un quartier pro-gouvernemental et il y aurait 14 morts. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme en compte 9, mais le bilan pourrait s'alourdir. Cette attaque intervient alors que les forces gouvernementales continuent de gagner du terrain à Homs face aux rebelles.
L'Iran ne veut pas la guerre, c'est ce qu'a déclaré Hassan Rouhani, le président iranien, lors d'un défilé militaire annuel. Téhéran ne veut pas la guerre, mais a les moyens de dissuader toute attaque, a-t-il souligné. L'Iran n'entend envahir aucun pays, mais résistera à toute agression. Hassan Rouhani a également assuré que l'Iran souhaitait de meilleurs rapports avec ses voisins.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgan Diriek et Bagassi Koura. Au Soudan du Sud, l'attaque contre une base de l'ONU a fait 58 morts, dont 10 assaillants. Dans la même semaine, les rebelles de Riek Machar ont pris contrôle de la ville de Bentiu, dans l'état de Jonglei. Les enfants payent un lourd tribut. Idriss Fall a joint Dune Porter, chargé de communication de l'UNICEF à Djouba.
Il y avait des enfants parmi les victimes à bord. Ils n'ont pas encore annoncé tous les chiffres, mais on sait qu'il y avait les enfants parmi les victimes. À Bentiu, c'est très difficile de savoir combien des morts, parce que le combat était dans la ville. Les personnes là-bas ont vu les corps dans la rue, mais la situation n'était pas assez en sécurité pour faire un résumé des nombres de fatalités. Bien sûr, il y avait les enfants qui étaient tués, gravement blessés, qui ont perdu leurs parents, leurs familles dans le combat. Ils ont vu aussi les atroces terribles que les enfants doivent normalement jamais vu des choses comme ça. Ils ont perdu leur foyer, leurs écoles, leur vie normale. Ils étaient aussi recrutés dans les groupes et les forces armées. C'est terrible pour les enfants.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants soldats?
Il y a des enfants soldats. On n'a pas en ce moment les chiffres, mais c'est clair que les enfants étaient vus en uniforme avec des militaires et qui portaient les armes.
Et si l'UNICEF lance un appel, est-ce que vous croyez que les parties au conflit vont entendre cet appel?
L'UNICEF a lancé plusieurs appels des deux côtés d'arrêter d'utiliser les enfants pendant des années avant ce conflit. On a fait de progrès avec l'armée du Sud-Soudan, vraiment de réduire. Mais bien sûr, depuis le conflit, ce progrès a arrêté. Bien sûr, et aussi les groupes opposition, eux, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient vus avec eux aussi.
Dune Porter, chargée de communication à l'UNICEF à Djouba. République centrafricaine, l'évêque de Bosangoa, toujours retenu, Bagassi.
Oui, malgré l'annonce de sa libération jeudi, Monseigneur Nestor Nonga Azagbia n'a pas pu quitter la paroisse de Batangafo. Selon le vicaire général de la cathédrale de Bosangoa, l'évêque a essayé de quitter la ville escorté par 3 soldats de la MISCA, mais on leur a barré la route et ils ont dû rebroucher chemin. Nicolas Pino a joint Frédéric Tonfio qui raconte la suite.
L'évêque de Bosangoa, jusqu'à présent, se trouve à Batangafo Et là, maintenant, il a essayé de sortir avec trois éléments de la muscade. Les ex Sereka avaient tendu embuscade à la sortie, donc il était obligé de repartir. Donc là, maintenant, il est revenu sur la paroisse Batangafo. On attend que la situation se décante. Il est libre de ce mouvement, mais sauf qu'il ne pourra pas sortir maintenant de Batangafo parce que la route est bloquée pour lui.
Et qu'en est-il de la muscade?
Bon, la muscade a été déployée à Batangafo, mais ils n'ont pas de véhicule pour l'instant. Alors, Dangui leur a demandé d'accompagner l'évêque jusqu'à Bossangwa. Donc, ce sont trois éléments de la MISCA qui sont montés à bord du véhicule de Monseigneur avec les trois autres abbés.
Que s'est-il passé concrètement avec les éléments de la Séléka?
Avant-hier, quand ils étaient à Kabo, il y a eu discussion, bon, il y a eu négociation, tout s'est bien passé. L'évêque et les prêtres sont revenus à Batangafo, escortés même par Ousmane, le commandant des zones de Kabo. Lui, il a promis d'accompagner l'évêque à Batangafo et c'est ce qu'il a fait.
Voilà, le vicaire général de la cathédrale de Bossangwa, Frédéric Tonfio.
La MISCA reconnaît que l'évêque est toujours bloqué à Batangafo, mais affirme qu'il est en sécurité. Nicolas Pineau a joint le général Martin Toumenta Chomoa, chef de la MISCA, la force africaine en RCA.
L'évêque de Bossangwa est en sécurité dans le contingent de la MISCA de Batangafo et demain matin, il va poursuivre son mouvement sur Bouka et sur Bossangwa, sous l'escorte de la MISCA, comme prévu. Il n'y a pas de problème avec M. l'évêque de Bossangwa. Nous avons d'autres moyens pour sécuriser ce déplacement, pas nécessairement des véhicules. Donc le déplacement va être sécurisé. Vous savez que nous étudions le terrain et nous sécurisons les déplacements par rapport au terrain, par rapport aux informations que nous avons et nous mettons les moyens adéquats. Vous savez, les ex-Séléka sont en train de se chercher pour se cantonner. Donc nous observons des mouvements des ex-Séléka, c'est normal. Donc nous ne sommes pas surpris par les petits mouvements des ex-Séléka. Donc il n'y a pas de problème avec eux. Ils avaient été bloqués par des hors-la-loi. Donc l'identification, je ne connais pas. Mais actuellement, il est en sécurité et il va poursuivre son chemin normalement, comme prévu.
Voilà, le général Martin Toumenta Chomoa, chef de la MISCA, joint à Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Voilà cette révélation à présent, le virus Ebola, qui a fait plus d'une centaine de morts en Guinée et au Libéria, vient d'une nouvelle souche. C'est ce qu'a révélé la revue médicale américaine New England Journal of Medicine, indiquant qu'elle ne provient pas d'autres foyers connus d'infection en Afrique comme la RDC, le Gabon ou l'Ouganda.
Pour comprendre les significations de cette découverte, Nicolas Pineau a joint Hilde de Klerk, médecin chez MSF en Belgique.
Bon, la souche qu'on voit maintenant qui circule en Guinée, on peut quand même dire que c'est une souche de Ebola Zaïre. Mais on voit, si on compare vraiment les deux souches ou les deux virus, donc celui de République démocratique du Congo et celle de Guinée, qu'il y a un tout petit peu de différence entre le virus. En fait, ils sont pour 97% pareils, mais donc il y a une légère différence de 3% entre les deux virus. Cliniquement, en fait, ça change rien. Cliniquement, on voit aussi que les patients présentent avec les mêmes symptômes.
Peut-on parler de mutation de la fièvre hémorragique?
Oui, effectivement. Chaque virus, déjà dans le temps, connaît des changements. Et effectivement, c'est lié à des petites mutations dans le virus même. En fait, le virus d'Ebola est assez stable. Mais quand même, dans le temps, il y a des tout petits mutations, comme vous dites, des tout petits changements qui se passent. Et donc, dans le temps, on peut suivre que des virus sont liés, oui ou non. Et donc, ces deux virus, celles qu'on retrouve en général au Congo et celles maintenant au Guinée, on peut dire que c'est des petites sœurs l'un de l'autre et qu'ils ont un ancêtre commun. On voit que les patients qu'on voit, ils ont les mêmes symptômes que les patients dans le passé, le pronostic semblait très pareil, le taux de mortalité semblait très pareil. Donc cliniquement, ça n'a pas d'implication. C'est juste intéressant d'un côté scientifique, parce que bien sûr, c'est la première fois qu'on voit cette maladie-là au Guinée. Et donc on se pose la question d'où ça vient. Peut-être dans une autre population de chauves-souris, par exemple. Et ça suggère que ce n'est pas importé par une personne, mais que peut-être, on ne sait pas, hein, c'est une hypothèse, mais circuler déjà dans le pays ou dans la région avant, dans une autre population de chauves-souris, comme je dis.
Hilde Klerk de Médecins sans frontières, jointe à Bruxelles.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
Les chrétiens du monde entier observent aujourd'hui le Vendredi Saint, le jour où Jésus a été crucifié. Comme chaque année, des pèlerins se sont donc donné rendez-vous à Jérusalem pour l'occasion. Timothée Donangmaï.
Ils étaient des milliers à investir la vieille ville de Jérusalem pour la traditionnelle procession du Vendredi Saint. Les pèlerins ont marché dans les étroites ruelles pavées de la Via Dolorosa, la voie de la souffrance, beaucoup d'entre eux portant de grandes croix en bois. Chantant des hymnes et lisant l'Évangile, ils ont refait le parcours de Jésus, s'arrêtant et priant à chacune des 14 stations du chemin de croix. Leur destination, l'église du Saint-Sépulcre. Selon la tradition, elle a été construite sur le site où Jésus fut crucifié, enseveli et ressuscité. Dans la foule des pèlerins, Michael Wade, un Américain venu de la Floride. C'est très bien d'être ici, l'endroit où tout s'est passé. C'est une chose de s'asseoir dans une église aux États-Unis et d'entendre tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et c'est un sentiment très différent d'être là où l'événement a effectivement eu lieu. Je pense qu'il y a certainement beaucoup plus de connexions. Pour Johan Defar, venu d'Éthiopie, Jérusalem, le Vendredi Saint, est une révélation. Vous sentez l'agonie de notre Seigneur. Vous le sentez à l'intérieur de vous. C'est tellement merveilleux. Nous sentons notre Seigneur en ce moment, non seulement en parole, mais même dans son esprit, dans notre cœur. La foule était particulièrement énorme cette année à Jérusalem, une coïncidence de calendrier faisant que les églises orthodoxes et occidentales célèbrent la Semaine Sainte et Pâques en même temps. À Rome, le pape François préside ce soir une cérémonie du chemin de croix au Colisée. Dans le nord des Philippines, des fidèles ont été littéralement cloués sur des croix de bois pour reconstituer la crucifixion de Jésus sous le regard des milliers de spectateurs. Un sanglant rituel annuel que n'approuvent ni les autorités religieuses ni les responsables philippins de la santé.
Gabriel Garcia Marquez, le grand écrivain colombien, prix Nobel de littérature, est mort hier à son domicile de Mexico, quelques jours après avoir été hospitalisé pour une pneumonie. Il est considéré comme un des plus grands écrivains de langue espagnole. Son ouvrage « Cent ans de solitude » est traduit en 35 langues. Pour parler de l'auteur, Idriss Fall a joint Souleyman Béchir Diane, professeur de littérature à l'Université Columbia à New York.
C'était un géant de la littérature. D'abord, il a écrit des ouvrages qui sont des classiques et en plus qui ont eu énormément d'influence sur la manière d'écrire de beaucoup d'écrivains. Parler de quelqu'un sur le continent africain, un auteur aussi important que Boubacar Boris Diop, le Sénégalais, se réclame par exemple de l'écriture de Gabriel Garcia Marquez. Il dit volontiers que c'est un écrivain qui l'a beaucoup marqué.
100 ans de solitude, si on devait le raconter à la jeune génération.
Ah, c'est la grande saga, c'est la grande fresque, cette manière de suivre une famille et de parler de la solitude de chacun des membres de cette famille. Je crois que si on voulait parler à la jeune génération, on comparerait cela à ce qu'écrit par exemple quelqu'un comme Émile Zola au 19e siècle. Émile Zola qui suit aussi une famille dans sa descendance. Et 100 ans de solitude, ça a été véritablement un coup de tonnerre dans l'histoire de la littérature. D'abord, une manière d'écrire, une manière de décrire la solitude. C'est un écrivain de la solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et cette manière aussi de brasser une histoire qui se déroule sur plusieurs générations, véritablement sur 100 ans. C'est un livre absolument magnifique et que la jeune génération devrait se précipiter pour lire.
Prix Nobel de littérature, mais il y a eu aussi chronique d'une mort annoncée. Est-ce que c'était prémonitoire?
D'une certaine manière, puisqu'on sait par exemple dans son cas à lui qu'il était malade depuis la fin des années 90. Alors chronique d'une mort annoncée, mais ça aussi c'est un tour de force littéraire extraordinaire. C'est un ouvrage qui est écrit à l'envers. Il prend totalement l'envers de la chronologie. Il y a un meurtre et ensuite on va dérouler les événements à partir de ce meurtre et on va remonter en arrière.
Souleymane Béchir Diagne, professeur de littérature à l'Université Columbia à New York.
Voilà, vous écoutez Le Monde, aujourd'hui c'est l'heure des sports. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Bagasikoura.
On commence par du football et le tour de barrage de la Coupe de la Confédération.
Et oui Bagassi, avant la phase de poule, il y a évidemment pour la Coupe CAF, il y a le tour de barrage entre les équipes qualifiées et les équipes reversées de la Ligue africaine des champions. Comme de coutume, ces derniers reçoivent lors des matchs allés le Nkana de Zambie contre le CA Bizertin. Et puis la grande déception, le Al Ahly d'Égypte qui affronte le Difa Hassani El Jadida du Maroc. L'AS Real contre le Djoliba, c'est le grand derby à Bamako. Et puis l'AC Léopard 2-2. Lizzy, le club du Congo Brazza, reçoit le Medeama du Ghana, les Kaiser Chiefs à Soweto contre l'ASEC d'Abidjan, et puis le Coton Sport de Garoua qui accueille le Petro Atlético de Luanda, et puis les Guinéens d'Oroya contre l'Étoile Sportive du Sahel, enfin le Bayelsa United du Nigeria en déplacement chez le Sewe Sport San Pedro.
En football toujours, cette fois-ci en Europe, l'Ivoirien Jean-Daniel Akpak Pro prolonge son contrat à Toulouse.
Et oui, le TFC, le Toulouse Football Club en Ligue 1, a annoncé ce vendredi la prolongation de 2 ans du défenseur ivoirien Jean-Daniel Akpak Pro. Il va rester au TFC jusqu'en 2017.
Et en tennis, le tournoi de Monte Carlo.
Et le Français Joe Wilfried Tsonga a été éliminé par Roger Federer 2-6-7-6-6-1 ce vendredi en quart de finale du Masters. Pourtant, Tsonga a remporté le premier set. Il était passé à 2 points du match dans le tie-break de la deuxième manche.
Et il faut dire qu'en NBA, on attend les play-offs.
Et oui, ça démarre demain. Aucun match, évidemment, aujourd'hui pour les play-offs. C'est la première fois que les Boston Celtics, les New York Knicks et les Los Angeles Lakers sont éliminés dès la fin de la saison régulière. La fiche des play-offs en la conférence Est s'annonce comme suit. L'Indiana contre Atlanta, Chicago contre Washington, Toronto contre Brooklyn et enfin le Miami de LeBron James contre les Charlotte Bobcats.
Merci Nicolas Pinault.
Ah bon, on va commencer la page musicale avec Roger Muntou. On écoute quoi?
Aujourd'hui, Morgane, c'est Bungi Garland, c'est un artiste trinidadien, oui, bourré de talent, c'est ça exactement, bourré de talent.
Apparemment, tu as cherché beaucoup aujourd'hui, Bungi Garland, puis trinidadien.
Mais t'aimes bien ce
okay, on attend la musique.
Non, c'est musique caribéenne aujourd'hui.
Merci,
dans le RM
Morgane.
Show à 20h temps universel, comme tous les vendredis.
Mais écoute, ouais, c'est un gars qui a beaucoup de talent, véritable phénomène dans les Caraïbes et surtout anglophone. Sa célébrité s'étend partout en Amérique du Nord. On l'écoute ce soir dans Nebula Mix.
Voilà, donc Roger, on l'appelle aussi le champion du peuple. Les hommes le respectent et l'admirent, les femmes le désirent et les jeunes l'idolâtrent, tout ça.
Mais c'est ça, on ne parle pas de ce cas, Morgane, sans parler de Bungi. S'il y a un seul nom à retenir, c'est forcément celui de Bungi. Bref, tout le monde l'aime, comme tu viens de le dire. Et c'est l'une des principales raisons de cet immense succès, Morgane. Il est le showman par excellence. Il est une bête de scène qui ne laisse personne indifférent, que l'on soit un fou de soca ou pas, quoi.
Tu l'aimes, hein?
Make you feel better, no you
then fit your good wine and carry on. Did you come this place with your boyfriend tonight? And if you stand up next to your mate,
Garline,
exactement.
Nebula Mix. Ouais. Merci Roger.
De rien Morgane.
Voilà Roger Muntou que vous retrouvez dans quelques minutes dans le RM Show. Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Lionel Gaïma pardon, à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et Bagassi Koura.
Voilà, à la semaine prochaine.